Fréquence Mistral.
Et bonjour à toutes et tous, auditeurs et auditrices de Fréquence Mistral. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir dans nos studios Bédou. Bédou, c'est un nom simple, mais c'est un personnage complexe, pionnier du stand-up marseillais. Il a écumé les planches de Marseille depuis 7 ans et il a fait aussi le tour de la France hein, pour jouer ses sketchs qui commencent à être très connus, notamment certains qu'on vous avez pu voir à la télévision. Bédou, c'est un premier spectacle, La tête sur les genoux, qui a rempli l'Ardu une bonne vingtaine de fois, si je ne dis pas de bêtises. Et aujourd'hui, il revient avec un nouveau spectacle, C'est pas la question. Encore une fois, on va découvrir ce personnage intime, complexe, hilarant, qui a de nombreuses facettes avec ce grand corps, cet animal totem qu'il a décidé de porter à l'hégémonie, le phasme. Aujourd'hui, on a le plaisir de le recevoir dans nos studios pour nous parler de ce nouveau spectacle. Bienvenue à toi, Bédou.
Merci Yacine, bonjour à tous et à toutes. Très, très, très heureux d'être ici sur Fréquence Mistral.
C'est un plaisir de t'accueillir dans nos studios. Bédou, on va commencer par la question traditionnelle qu'on pose maintenant à tous les humoristes qui sont passés par ici. C'est comment tu as commencé le stand-up? Qu'est-ce qui t'a amené sur les planches?
Alors, ce qui m'a amené sur les planches, c'était en 2017. Je bossais dans un métier qui n'avait rien à voir. Je bossais chez Free, sur des centres d'appel. Je faisais ça depuis 4-5 ans. Voilà, j'ai pas fait d'études supérieures ou quoi que ce soit, c'était ma façon de survivre, quoi. J'étais à Paname et en gros, je me suis rendu compte à 25 ans que j'étais pas très heureux. Par contre, je gagnais de l'argent, mais j'étais pas très heureux. Et comme j'avais toujours eu secrètement cette envie un peu de me mettre peut-être en scène, je viens pas d'une famille où le théâtre, c'est un automatisme. Enfin voilà, c'est presque même inaccessible pour le milieu social duquel je viens. Et voilà, il y avait juste un truc un soir, je le dis à chaque fois, c'est un vendredi soir à 23h30, je rentre du travail parce que j'étais sur les 3-8, enfin, j'étais en chiffre de nuit. Je regarde une rediffusion de Koh-Lanta, je fume un pétard, je suis avec mon chat, j'ai 25 ans et je suis malheureux quoi. Je me dis, je suis en train de louper ma vie quoi. Là, je suis vraiment en train de faire n'importe quoi. Pas que j'aime pas Koh-Lanta, mais bon, il y a quand même d'autres choses.
Ni ton chat.
Oui, non, Michel, de là où tu es, je te salue. Mais oui, je me suis dit, je suis en train de d'être pas très fun, quoi. Voilà. Je sais que bouillonnait à l'intérieur de moi quelqu'un d'assez marrant et je le sortais pas par manque de confiance, par manque de plein de choses. Et voilà, je me suis lancé, j'ai tapé stand-up Paris sur Google. Je suis tombé sur un mec qui donnait des cours, Alex Nguyen, que je salue. C'était au Sonar, à Pigalle, qui n'existe plus, mais qui est par là où sont passés beaucoup d'humoristes au final de ma génération. Et j'ai démarré comme ça, j'ai pris des cours, des ateliers que tu faisais 2 heures le samedi. Il y avait une scène ouverte ensuite, enfin il y avait un plateau qui se jouait 1 heure après le cours et j'ai démarré comme ça.
Et tes départs, alors ta première scène, est-ce que tu peux nous raconter, ça s'est bien passé ou ça a été le bide interne?
C'est la première en tout cas, en tout cas pour moi, c'est que j'ai eu un gros blackout. Je sais que l'adrénaline elle était tellement puissante que du coup j'ai très peu de souvenirs. Si je me souviens que il y a ce truc où en fait déjà t'entends le public qui réagit quand t'as les autres collègues qui sont sur scène, donc en fait ça monte au fur et à mesure et il y a ce fait de passer de l'autre côté du décor quoi. C'est-à-dire que t'es dans des loges ou t'es dans un petit couloir, enfin là c'est la plupart du temps t'es au départ
dans
t'es
des toilettes des chiottes, voilà.
T'es à côté des chiottes, mais voilà, il y a ce petit rideau mais tout paraît grand en fait. C'est ça qui est fou aussi, c'est que si je retournais au Sonar dans cette cave, je me dirais c'est cassé, c'est pété, mais ça me paraissait énorme. La lumière, je me rappelle que ça avait été très choquant, enfin très violent, pardon. Et après, les tremblements, quoi. Enfin, gérer son corps physiquement sous l'état de stress dans lequel tu es. Par contre, je me souviens aussi intimement que dès que ça s'est terminé, je me suis dit, j'ai envie de le refaire, quoi.
Ouais, donc stupeur et tremblements et dopamine à la fin, quoi.
Ouais, c'est ça.
Et justement, tu racontais que tu as commencé à Paris. Comment tu es arrivé sur Marseille? Comment tu es arrivé à Marseille et pourquoi Marseille d'ailleurs?
Marseille, je pense qu'il y a une part familiale, de racines tout simplement. Ma mère, elle est née ici, mes grands-parents vivaient là, à Mazargues, à La Soude. Et du coup, je passais toutes mes vacances scolaires à Marseille. J'ai toujours un attachement profond pour Marseille. Et je pense que ça s'est fait à un moment où, comme je voulais absolument une grande ville, voilà, je me considère, même si j'ai grandi à la campagne, je me considère quand même dans mon esprit comme un citadin. Paris, ça m'allait plus. J'hésitais entre 3 villes. Il y avait Bruxelles, Toulouse, Marseille. Et en fait, comme mon grand-père, je sentais qu'il allait bientôt ne plus être de ce monde. Et que c'est vraiment l'un des gars qui m'a aussi permis. C'est une des personnes qui m'a donné envie de raconter des histoires aux gens. Avant d'être drôle, mais surtout de raconter des histoires aux gens. Je me suis dit, allez, vas-y, je tente Marseille. J'ai rien à perdre. De toute façon, j'avais 2 ans de chômage. J'y vais. Et, Et en fait, il y a eu aussi ce truc à un moment donné en arrivant à Marseille où tout le monde m'a dit, mais c'est bizarre comme choix de démarrer dans stand-up et en même temps de partir de Paris. Et il y a vraiment eu ce truc où quand je suis arrivé, l'opportunité de se dire, il n'y a pas grand-chose. Il n'existait que les quais du rire à l'époque, Espace Cav Adams. Mais je viens déjà de dire dans le nom ce pourquoi j'avais pas envie de jouer là-bas. Je rigole. C'est pas à moitié. Et non, voilà. Et du coup, je me suis dit, c'est cool parce qu'il y a plein d'opportunités. Ça veut dire qu'il n'y a rien. Donc, on va démarrer, on va créer. Et de fil en aiguille, c'est comme ça que ça s'est passé. Et aujourd'hui, voilà ce que ça en est. Donc, je suis assez fier d'avoir pu être là au début de la montée du stand-up. Pas de l'humour à Marseille, parce que l'humour à Marseille, il y en a eu. Oui, okay. Là, pour le coup, le Vieux Port, le Quai du Rire.
Des millénaires d'humour. Ouais.
Voilà, c'est ça. Il y en a eu énormément. Mais le stand-up, par contre, c'était un truc qui n'existait pas encore pour moi. En tout cas, qui n'était pas fait de manière...
Dans le format qu'on connaît aujourd'hui.
Voilà, c'est ça.
Effectivement, toi, comme je l'ai dit en intro, tu es un des pionniers du stand-up à Marseille. Tu as littéralement fait partie des premiers à l'amener, à le porter, on va dire, dans le format existant aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as vu de cette évolution depuis que tu es arrivé? Parce que tu as vu beaucoup de monde arriver, tu as vu beaucoup de scènes se créer. J'imagine que ça a dû chambouler pas mal de choses pour toi.
Ouais, ce que je constate, c'est qu'il n'y a pas une seule année où la ville a stagné. Déjà, c'est ça qui est bien. Elle est en continuel... évolution et dans le bon sens du terme, quoi. Si je prends rapidement là, on va avoir quatre gros lieux à Marseille. Pour moi, t'as un lieu, le Garage, qui est une référence de comedy club en France, qui est devenu hors Paris, mais même je pense français, quoi.
Ils ont créé quelque chose d'incroyable.
Pour avoir joué un peu de partout en France, il y a très peu de choses qui passent au-dessus du Garage, c'est mon avis. En termes d'ambiance et de ressenti pour l'artiste quand t'es sur scène. Voilà, t'as le Vieux Port qui existe toujours et qui continue à exister, qui font jouer plein d'artistes, c'est génial. T'as le Marseille Comedy Club qui va arriver, qui pour moi va se déterminer, se démarquer aussi des autres, parce que eux, ils ont vraiment, Seb a vraiment la recherche de vouloir professionnaliser.
On va les recevoir prochainement pour parler de l'ouverture de ce prochain club.
Ouais. Donc ça serait un peu le truc qui est vachement cool avec ces trois salles, et puis qui va dans une évolution de Marseille aussi, parce que c'est dans le projet de réaménagement de la rue de Rome, la nouvelle place Castellane, enfin voilà. Et l'Ardu, dont moi je suis le plus attaché forcément, qui pour moi, à terme, si tout se passe bien, on deviendra, je pense, une école, quoi, et pas qu'une école marseillaise, mais une école aussi française. Donc moi, j'ai vu que des choses trop bien, c'est-à-dire que j'ai formé des gens par mon rôle de prof, j'ai vu des gens être des... arriver en cours d'essai en mode non mais voilà, moi je vais juste écrire un peu des blagues, pas forcément monter sur scène, et en avoir qui partent faire le NH à Montréal, qui ont ensuite maintenant leur spectacle à l'Ardu et qui sont complets à chaque date, voilà, il reste toujours, je pense, cet esprit familial, enfin cet esprit stand-up marseillais, et on souhaite, je vois ce truc assez cool qu'on souhaite qu'à un moment donné, il y en ait un ou une qui pète, quoi. C'est ça qu'on veut. Je pense que c'est ça qui nous manque maintenant.
Qui pourrait tirer tout le monde vers le haut aussi, parce qu'effectivement, le stand-up Marseille est plein de pépites, mais qui sont encore méconnus à l'extérieur de Marseille pour certains, pour beaucoup même.
Carrément. Je pense qu'il y a des gens qui ont fait des petites percées, bien sûr, en intégrant des troupes au Jamel Comedy Club comme Baba Rudy, des Laurent Fevé qui ont quand même beaucoup d'abonnés sur Insta. Mais il n'y a pas eu de Quentin qui a eu sa vidéo sur mon truc a bien marché. Voilà, il y a des l'Ardu qui soit passé à la télévision via Top Comedy Club, le Garage, l'émission a été enregistrée. Enfin, tout ça, c'est des vrais éléments de fierté. Il nous manque effectivement un ou une personne qui de percer et qui fait partie en fait de l'essence même du stand-up marseillais.
De ce tissu, c'est pas un Redouane Mougueraba, puisque Redouane, même on respecte le personnage et tout ça, mais il n'arrive pas le reste du stand-up marseillais vers le haut. Il fait sa carrière qui est très belle à Paris, mais c'est pas.
Oui, ou d'autres gens comme Ayrton Gomez, Malik, même Marinella. Moi, en vrai, Marinella, par exemple, pour ceux qui la connaissent, j'ai démarré avec elle à Toulon au Fala Comedy Club.
Je savais pas qu'elle était de...
Elle est d'ici. Okay. Mais c'était pas des gens qui étaient dans le crew du. Je parle, on va dire, la team qui était dans les cours d'orchestre de Briac, qui ont créé le Garage ensuite, Diogène, Ardu, enfin voilà.
Ouais, parce qu'il faut, il faut rappeler que tout ça, ça part de Briac qui a créé le très bon site internet Stand Up France, où on peut apprendre beaucoup sur le stand-up. Si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller voir ce site internet.
Et le livre aussi qu'il a sorti, du coup.
Oui, et le livre qui va avec, mais c'est vrai que beaucoup de choses se sont ramifiées autour de Briac et de Orchestra, c'était ça, c'était quoi?
Ouais, c'était le premier lieu où il y avait des cours, Mais voilà, c'est ça que j'ai pu voir l'évolution, c'est plein de jeunes et de qui avaient faim et quand même avoir faim en faisant les choses bien. Et effectivement, aujourd'hui, de ce que j'ai l'impression, de ce que je vois à l'extérieur, hors Paris, il y a deux villes qui se démarquent fort en France, c'est Nantes et Marseille, quoi.
Mmh. Et ben justement, on va parler de toi qui te démarque aussi dans le stand-up Marseille, parce que tu fais quand même partie des têtes d'affiche aujourd'hui de la ville de Marseille. Donc on en a parlé, hein, ce premier spectacle, La tête sur les genoux, qui a été quand même un carton plein, puisque tu as réussi à remplir 21 fois, non, c'est ça?
Je l'ai joué 26 fois, ouais, je crois.
Ah, 26.
Comme ça, 26 fois, il y a eu pas mal de complets, ouais, il y a eu pas mal de gens qui l'ont vu. Je veux dire, en proportion de ce qu'est Marseille aussi, et oui, de ce que le public le public marseillais est. Puis c'est quand même 120 places, enfin c'est entre 100 et 120 places l'Ardu, donc ça reste quand même une grosse salle.
Non, c'est une belle salle, et moi, pour l'avoir vu, c'était un spectacle qui fonctionnait très très bien, avec qui commençait toujours avec c'est pas pour te jeter des fleurs, hein, mais c'était très agréable à voir, bien construit, il y avait l'observation. Effectivement, il y a aussi un petit côté des fois on sent militant, puisqu'on sent que tu es engagé sur certaines causes. Il y a ce côté bonhomie où tu arrives à connecter avec le public, puisque tu as aussi cette formation de MC, de maître de cérémonie, où tu arrives facilement à faire de l'interaction. Et il y avait tout un ensemble autour de ce spectacle qui créait quelque chose de qualité. Et c'est pour ça que la question qui vient, c'est pourquoi ce second spectacle, donc c'est pas la question que tu es en train de tourner, pourquoi ne pas avoir continué à prolonger La tête sur les genoux, pourquoi cette envie d'aller vers un nouveau spectacle?
Alors déjà, je pense que je fais pas partie de la team. Enfin, en gros, historiquement, on se dit s'il y a deuxième spectacle, c'est qu'il n'y a plus le premier. Mm-hmm. Pour moi, La tête sur les genoux n'est pas partie. Mm-hmm. Je peux toujours le jouer. C'est pas une histoire de qu'il est terminé, parce que encore une fois, je l'ai joué 26 fois à l'Ardu, je l'ai pas joué non plus 450 fois. Ouais, normalement, quand tu passes à un autre spectacle, t'as fait des tournées. C'était moi, je vois ça comme, je sais pas, tu vois, si tu prends exemple Jul, t'imagines si à chaque fois on lui disait, c'est bon, t'as fait deux albums, c'est fini, normalement une carrière c'est quatre. Ouais, c'est ça, pardon, ouais. Je suis à 67, donc qu'est-ce qu'on fait? Non, mais voilà, j'ai la tête sur les genoux, j'étais dans un rapport d'efficacité. C'était le spectacle où je voulais me dire, les gens se disent de moi que je suis drôle. Enfin voilà, je voulais vraiment marquer ça à la fin de l'heure. C'était, il y avait du coup beaucoup d'interactions, de connexions avec le public, des vannes pour moi qui sont très efficaces, très sharp, quoi, qui sont vraiment. Que j'avais écumé sur les plateaux. C'est aussi une différence avec le nouveau. Et c'était pour aussi cette fameuse position, la tête sur les genoux, qui était un rapport avec moi dans ma vie psychologiquement et tout. C'était une forme de l'enterrer quelque part aussi, quoi. Et je sais pas, d'un coup, c'était au début de l'année. C'était juste, je me revoyais pas refaire encore une promo à l'Ardu, en tout cas, avec la tête sur les genoux, la même affiche. Je sais pas.
J'avais envie de nouveauté.
Ouais, j'avais simplement envie de sortir de ma zone de confort, et j'avais besoin d'essayer de faire une heure de spectacle où la majorité du matos que j'allais jouer sur ce spectacle, je la jouais pas en plateau. D'accord. Je voulais vraiment expérimenter aussi, ça fait quoi de faire un spectacle qui va pas se travailler par le Comedy Club?
Oui.
Parce que ça se voit, en fait, très vite. Un artiste qui fait son spectacle par ses passages de Comedy Club, ça se fait un spectacle très efficace,
ouais.
Mais peut-être qu'il se tient moins.
Félix Jean, je sais qu'il en parle beaucoup, c'est sa manière de procéder, ouais. C'est de faire des 5 minutes explosifs, ouais. Et une fois qu'ils sont explosifs, il les lit et...
Carrément, Félix, pour le coup, oui, j'ai fait ses premières parties, j'ai vu son spectacle, ultra efficace, hein. Voilà, les gens en ont pour leur argent, tu te régales, mais après voilà, il n'y a pas de lien, je voulais expérimenter ce truc-là, mais ce qui m'a un peu inspiré, c'est toute la manne d'artistes à Nantes, où en fait, des fois, ils sortent des heures de spectacle, ils les foutent sur YouTube, ou Yacine Bellouz, par exemple, qui fait un spectacle par an. Je voulais le voir comme un spectacle thématique aussi. Mmh. Ce truc de c'est pas la question, c'est très vaste. On m'a aussi expliqué qu'il y avait Romain Fraissinet quand il était à Montréal. Enfin, il avait écrit trois spectacles. Et au final, quand il arrive en France, il a mixé ces trois spectacles. Il y a de ça aussi, peut-être. Je me dis, là, j'expérimente une nouvelle heure,
oui.
Dans laquelle ça n'avait pas sa place dans La tête sur les genoux. Et peut-être qu'un jour, in fine, ça va se mélanger les deux. Voilà, je pense qu'on est à une époque maintenant où, de toute façon, que ce soit les titres, les affiches, je crois que les gens ils regardent plus trop.
Oui, oui.
Je pense. Mais par contre, moi, c'était une façon d'écrire et de jouer, de découvrir un spectacle, pas du tout de la même manière que j'avais fait avec La tête sur les genoux, quoi.
Bah on va se retrouver pour en discuter encore un peu. Je t'avais demandé donc de faire une recommandation musicale. On va faire une petite pause musicale. Donc, toi, tu as choisi quel artiste?
Eh bien, c'est Luigi Monde, puisque c'est la musique que je mets à la fin de mon spectacle.
Donc on va écouter tout de suite Luigi Monde. Thank you.
Est-ce qu'un jour je pourrais compter parmi les grands de ce monde? J'ai toujours voulu compter parmi les grands de ce monde. Soulager ma haine avant que le ciel me rappelle. Esclave de ma cause, mais j'ai choisi mes chaînes. Est-ce qu'un jour je pourrais compter parmi les grands de ce monde? J'ai toujours voulu compter parmi les grands de ce monde. Soulager ma haine avant que le ciel me rappelle. Esclave de ma cause, mais j'ai choisi mes chaînes. Chaque jour que Dieu fait, je remercie le monde de m'avoir laissé tomber, abandonné comme une bête sauvage blessée. Je regrette le temps que j'ai passé à me négliger, m'ignorer, m'excuser d'exister. J'ai payé de mon sang toutes les richesses et les merveilles de vos continents. Je le fais avec mon cœur, mes couilles. Je ne prends pas de cours de chant. Je ne prends pas de cours de chant. Est-ce qu'un jour je pourrais compter parmi les grands de ce monde? J'ai toujours voulu compter parmi les grands de ce monde. Soulager ma haine avant que le ciel me rappelle. Esclave de ma cause, mais j'ai choisi mes chaînes. J'ai choisi mes chaînes. J'ai choisi mes chaînes. Je bénis chaque jour qui m'a vu échouer. Chacun d'entre eux m'a rapproché de ma vérité. Elle m'a sauvé de mon sort, elle a guéri chaque partie de mon corps. Et je bénis chaque jour qui m'a vu échouer. Chacun d'entre eux m'a rapproché de ma vérité. Elle m'a sauvé de mon sort, elle a guéri chaque partie de mon corps, chaque partie de mon corps. Est-ce qu'un jour je pourrais compter parmi les grands de ce monde? J'ai toujours voulu compter parmi les grands de ce monde. Soulager ma haine avant que le ciel me rappelle. Esclave de ma cause, mais j'ai choisi mes chaînes. Est-ce qu'un jour je pourrais compter parmi les grands de ce monde? J'ai toujours voulu compter de ce monde. Soulager ma haine avant que le ciel me rappelle. Esclave de ma cause, mais j'ai choisi mes chaînes.
Donc merci pour cette recommandation. Luigi, c'est quelqu'un que tu connais?
Non, non, c'est un artiste national. Hein. Non, non, c'est juste que c'est un... Tu sais, il y a Tarantino qui explique qu'il écrit ses films via la musique. Il y a même Farid qui en parle un peu aussi dans son spectacle. Et c'est vrai que c'est la première fois où en fait c'est via des sons aussi que je me suis inspiré. Il y a des moods qui m'ont été donnés par des artistes, beaucoup de rappeurs français. Et ça a fait tilt, ça a fait un écho et ça a pu se retrouver, je pense, dans certains endroits du spectacle, quoi.
Bah écoute, je pense qu'on aura tous hâte de le découvrir parce que tu l'as rodé aussi un petit peu cet été. T'as joué cet été le spectacle?
Alors là, je l'ai rodé 6 dates de janvier à juillet à l'Ardu. Voilà, une date par mois. 6 rodages super, super cool où j'ai vraiment pu expérimenter aussi cet exercice que je ne connaissais pas du rodage. Je trouve que c'est trop, trop bien.
Il y a un petit souci dans le studio, t'inquiète pas, c'est logique, c'est Marseille, il n'y a pas de problème.
Ouais, j'ai expérimenté cet exercice du rodage et c'était vraiment, vraiment cool. Je trouve que le public était hyper sympathique là-dessus parce qu'en fait, tu viens vraiment avec un carnet et pas tout est testé, pas tout est encore construit. Et c'est kiffant de voir au bout d'un moment quand tu arrives à la 5e, 6e, que tu commences vraiment à le tenir, quoi. Et que tu commences à le maîtriser et que tu l'as fait en étant sur scène. Donc c'était assez chouette.
Oui, effectivement, j'ai vu, je crois, la 3e ou 4e en rodage. J'étais venu avec mon cher collègue Pierre, que je salue avec plein d'amour. Mais effectivement, on l'avait vu en pleine construction et on s'était dit que c'était vraiment intéressant parce que pour le coup, on voyait vraiment un spectacle émerger. Comme on voit quelque chose émerger des flots, on sentait qu'il y avait des choses qui étaient en construction et d'autres choses qui directement tapaient là où il fallait et on sentait que c'était efficace. Mais c'est vrai que tu faisais beaucoup moins d'interactions dans ce passage-là. Et je crois que c'est un choix de ta part d'enlever les interactions, non, sur ce nouveau spectacle?
Bah, c'était pas forcément de les enlever, mais c'était de les faire de manière différente. En gros, dans le premier spectacle, j'ai fait comme beaucoup d'artistes font sur un premier spectacle, c'est je fais des interactions au démarrage du spectacle, qui cherchent à savoir, bah, vous m'avez découvert où, et qu'est-ce qui fait que vous êtes là, ce qui crée pour moi de la connexion et ce qui peut créer déjà du rire et de la blague facile. J'étais pas dans la recherche toujours dans les interactions que je faisais dans le premier spectacle à ce que ça apporte du propos. Mmh. Même si je le gardais toujours en fil rouge, que j'essayais de faire en sorte que la personne du spectacle avec qui je parlais essayait d'être un peu la resta aussi du spectacle. Par contre, dans celui-ci, c'était aussi de me dire si j'en fais, faut que c'est vraiment une comment dire, une
plus-value.
Ouais, une plus-value et que ça soit en raccord avec ce que je veux dire dans le dans le dans le spectacle, ce que j'ai pu faire du coup sur des dates du rodage, sur la thématique que j'aborde beaucoup, sur la recherche d'identité, on va dire voilà. Donc mon nom de scène, moi c'est Bédou, mais bien évidemment que c'est pas mon prénom. Donc du coup, je parle de ce rapport que j'ai entre mon alter ego artistique Bédou et Benjamin, qui est une personne totalement différente enfin à certains endroits qui est assez différente dans la vie. Et donc j'essaie d'échanger avec les gens sur cette thématique là j'essaie de beaucoup échanger aussi sur la thématique de la santé mentale, donc sur le rapport à la thérapie aussi. Et en fait, je suis assez étonné de voir que les gens déjà il y a de plus en plus de gens qui sont conscientisés sur cette question là donc c'est super cool. Et de voir qu'ils ont pas trop de tabous. Je me dis, en vrai, on a posé pendant des années des questions aux gens sur les consommations qu'ils pouvaient avoir de drogue ou leur vie sexuelle. Pourquoi on le ferait pas sur ça, quoi?
C'est vrai que tu vas dans l'intime dans ce spectacle quand même, parce qu'on découvre des facettes de toi où tu vas te mettre à nu, on va dire, face au public. Hein, c'est un classique de ce qu'on entend dans les spectacles, mais c'est vrai qu'il y a ce truc sans filtre sur certains aspects de ta vie où tu viens te raconter. Je ne veux pas spoiler le spectacle, mais il y a ce truc très intime. Justement, tu n'avais pas peur avant le spectacle d'arriver sur ces aspects-là et de les montrer aux gens? Il n'y avait rien qui t'inquiétait un petit peu là? Bon, j'imagine qu'il y a plein de choses qui te faisaient peur. Mais...
Ouais, si, il y avait plein de choses qui m'ont fait peur. Vraiment, je te raconterai une anecdote après sur la première. En gros, je pense que c'est une suite aussi quand même de la tête sur les genoux. Je pense qu'un deuxième spectacle, ça peut être une continuité. C'est pour ça, c'est pas la question. C'est qu'en fait, toutes les questions que j'ai l'impression de m'être posées dans le premier spectacle et que je pensais être résolues, en fait, au final, j'ai l'impression qu'en grandissant, en faisant une thérapie et en devenant un peu plus mature, que c'était pas vraiment la question, quoi. C'était pas les bonnes questions que je m'étais posées. Donc, il y en a d'autres qu'il fallait vraiment revenir dessus. Et je voulais garder ce rapport intime. En fait, je parle de la mort de mon grand-père dans le premier spectacle. J'avoue que quand je l'ai fait, c'était très difficile. Il y a eu des moments où, en fait, j'étais vraiment pris par l'émotion. Et je m'étais dit que c'était impossible pour moi de faire ça un jour dans ma vie. C'est pour ça que je voulais faire l'humour et pas de la comédie dramatique ou du théâtre. Et j'ai assez kiffé en fait cet endroit-là. Parce que c'est assez beau de voir aussi de créer de l'émotion chez les gens qui n'est pas que du rire. Et donc je me suis dit, je vais utiliser aussi tous ces sujets deep qui ont pu m'arriver dans ma vie ces dernières années ou quoi que ce soit. Donc il y a eu une opération, une maladie, il y a eu des dépressions, il y a eu des déboires amoureux, plein de choses comme ça. Et c'est là-dedans aussi que j'ai envie de... Enfin voilà, pour moi c'est là où on va aller voir pour connaître ta vraie belle facette. Donc ce qui est mon personnage scénique, donc Bédou, il faut aussi qu'on comprenne et qu'on explore le darkness de Benjamin, quoi.
Ouais, effectivement, c'est vrai que j'y ai pensé en sortant, mais ça m'a fait beaucoup penser à une chanson de Diams où elle parle à son alter ego et c'est un échange entre Diams et Mélanie. Je pense que je la passerai en fin d'interview pour connecter avec ça. Mais c'est vrai qu'il y a ce truc toujours entre l'artiste sur scène ou l'artiste devant un micro et l'artiste en off, en fait, qui les deux ont des rapports. Mais les stand-upers, même s'il y a une illusion du naturel sur scène, c'est pas complètement du naturel. Il y a quand même aussi un personnage, je crois.
Je trouve que c'est Ryan Zerouni, stand-upper marseillais, un ami qu'on aime beaucoup, qui est un peu... très intelligent comme garçon, il me faisait cette remarque. Moi, j'avoue que je suis un peu comme lui, je fais beaucoup de parallèles entre le stand-up et le rap. Il m'expliquait qu'il voyait ça, c'était Nas qui expliquait qu'en gros, son premier album, c'était la façon de dire « je suis qui je suis ». Voilà, mon premier spectacle, c'était pour vraiment assimiler l'idée de Bédou. Ouais, voilà, Bédou, ce personnage...
Pour le public comme pour toi-même, en fait.
Voilà, exactement. C'est devenu une fierté d'être ce personnage-là et d'être aussi bon, quoi. Et le deuxième, c'est celui où tu commences à comprendre. Du coup, c'est comme si tu faisais de tes 0 à tes 25 ans sur le premier spectacle. Tu racontes ce qui s'est passé. Et après, tu expliques comment tu as compris ce que tu avais fait sur le deuxième. C'est un peu ça que Donc, pour le moment, je réinvente rien. Et je sais que du coup, je fais ça parce que je sais que ça va m'insuffler à un moment donné l'envie aussi d'aller vers des spectacles thématiques. J'adore les artistes qui font ça.
Ferrari le fait très bien.
Voilà, c'est ça. Moi, pour le moment, je raconte beaucoup des choses de moi. Et c'est trop cool. J'ai envie d'arriver peut-être un jour et de me dire, s'il faut, en 2025, je reviens ici, je te fais... tu m'accueilles pour faire la promo d'un spectacle sur la lutte des classes, tu vois. Ouais, et de faire juste une heure sur ça, quoi.
Ou sur les ouvriers des chantiers navals de Toulon ou
quoi que ce soit. C'est ça, exactement. De toute façon, à partir du moment où moi, j'ai été intermittent du spectacle, ça a été ma vie, Enfin, c'est-à-dire que je gagne ma vie grâce à ça. Je me sens beaucoup plus libre dans ma façon de créer aussi. C'est-à-dire que d'un coup, je me dis, bah oui, mais si j'ai envie de faire un deuxième spectacle, je fais un deuxième spectacle. Ouais. Enfin, qui m'en empêche de toute façon ? Oui, c'est pas logique. Je me doute bien qu'il y a des collègues qui doivent voir sur Insta, machin. Ils font, mais qu'est-ce qu'il raconte ? Qu'est-ce qu'il fait ? Même moi, des fois, je suis perdu parce qu'il y a des salles qui me demandent, qui me démarchent, mais je me dis, je suis jamais allé jouer là-bas. Donc, du coup, je joue quoi ? Je joue le premier spectacle où je sais qu'il est efficace pour au moins bien fonctionner. Et après, je programme le deuxième. J'en sais rien, des fois Stan, le directeur de l'Arduino, me dit si tu veux, on te programme les deux sur le même week-end. Enfin,
pour le moment.
Je vais devenir un seigneur des anneaux, les gens ils vont faire des marathons. Vont...
c'est un work in progress, mais alors je suis curieux de voir le marathon B12 sur un week-end avec toi, parce que pour tenir un marathon, il faut de l'énergie, donc j'ai hâte de voir où tu vas puiser toute ton énergie. Alors une autre question qui me... T'as cette qualité-là pour un humoriste, c'est que tu arrives très facilement à connecter avec les gens. Il y a un truc magique dans la connexion. Il y a certaines personnes qui l'ont naturellement, d'autres qui mettent des années à le trouver. Mmh. Et toi, tu as ce truc où tu arrives très rapidement à créer une forme de connexion avec les gens et ils arrivent à se mettre en empathie avec toi. Et c'est quoi tes tips pour ça ? Comment tu fais ? Est-ce que tu le fais consciemment ou tu as l'impression que c'est inconscient et tu arrives à te mettre dans une position, une attitude qui fait que les gens, ils arrivent à se rapprocher de toi ?
Je pense qu'il y a un peu des deux. C'est à la fois conscient et inconscient, mais ça part beaucoup par l'attitude. Tu sais... Moi, il y avait un pote qui m'avait donné un conseil de ouf dans la vie, il m'a dit, en vrai, regarde vraiment, essaye une journée où tu fais que sourire dans la rue, tu verras qu'il t'arrivera que des trucs plutôt cool. Et c'est vrai que si par contre t'as les épaules fermées, t'es comme ça, enfin ça se voit très vite, tu vois, ça va. Et pareil, je pense que si t'arrives sur une attitude sur scène et que tu te considères comme une resta, c'est pas bon. Moi, ouais. je sais ce que je suis, je sais ce que je peux représenter. J'ai encore du mal avec le fait d'être une personnalité publique, même dans la rue. Et bon, sur scène, ça ne me dérange pas, mais c'est vrai que dans la rue, des fois, ça peut être gênant. Enfin, ça peut être perturbant. Mais, pardon. Ouais, j'essaie d'amener ce truc où on est détente, quoi. Donc, ça passe par beaucoup d'autres raisons aussi de ma personne d'abord, mais c'est pour montrer qu'on est au même niveau. Je ne veux pas qu'il y ait de gap entre le public et moi. Tu vois, il y a des artistes qui savent très bien le faire, par contre. Aller à l'inverse, faire un truc de resta comme Farid, par exemple.
Farid, c'est démonstratif, oui.
C'est son art, c'est son truc à lui. Et après, ouais, j'essaie toujours de garder cette tête. C'est que potentiellement, c'est des gens, c'est des amis, tu vois, c'est des potes. Et que j'en suis à un endroit aussi où je joue dans des salles qui me le permettent aussi.
Oui.
J'en sais rien d'où ira ma carrière, mais si un jour je passe dans les jauges à 500, 600, ça sera peut-être un peu plus compliqué de faire de la connexion avec les gens.
Oui.
Mais là, hein, j'ai la chance de jouer dans des endroits où les gens sont sur moi quasiment. Donc oui, il faut parler avec eux. Et parce que j'en ai besoin, parce que je crois que ça me rassure moi-même aussi, hein, des fois.
De pouvoir avoir un lien avec eux, de pouvoir les toucher un petit peu.
Ouais, c'est de casser le quatrième mur. Et je pense que peut-être que ça peut, des fois, ça peut éventuellement tendre les gens sur le public. Mais j'ai l'impression qu'avec. Pour te dire à quel point, des fois, c'est inconscient et inconscient, c'est que à chaque fois, je dis j'ai de la chance, tu vois. Et mon pote Max, qui m'accompagne beaucoup, il me dit non, c'est pas que de la chance, c'est juste que du coup, ça se crée ce truc-là. C'est-à-dire que je vais souvent, effectivement, vers des bonnes personnes dans le public. Parce qu'il y a tout. Plusieurs types de publics, et il y a ceux qui sont hyper à l'aise, qui vont pas être gênés, et qui en plus, c'est eux qui vont donner un propos qui sort un peu du quotidien. Enfin, tu vois, c'est des gens hyper originaux, et d'un coup, tu fais ouais, magnifique, ok, là on va se régaler quoi.
La Gisèle, 55 ans, qui va te parler de ses histoires de famille comme si elle était qu'avec toi au café, c'est vrai que
mais c'est trop trop bien.
Il y a qu'avec toi que ça peut arriver.
Ben, j'adore, et en fait, c'est ce qui me permet moi aussi de ne pas me rendre fou par rapport au métier, parce que bon, ben, sur un spectacle, pour moi, il y a toujours 45-50 minutes dessus qui bougent pas trop et tout. Et c'est ça qui est trop bien quand tu connectes avec les gens, c'est que ça rend une date aussi unique, quoi.
Oui, pour eux comme pour toi, oui.
Du coup, ce qui fait que je me souviens aussi des dates, tu vois. Je me souviens des dates, de moments très spécifiques, particuliers, d'échanges avec telle dame, tel monsieur, qui viennent de tel endroit. Voilà.
Mais je viens de le comprendre en t'entendant, mais c'est vrai que je me rends compte que c'est ce que j'ai aimé sur ton spectacle et sur d'autres spectacles, c'est ce que j'aime le plus en fait, c'est la sensation de vivre vraiment un moment unique et qu'on ne reverra pas souvent. Bah, ça, c'est vrai que c'est pour ça que l'interaction est aussi... utilisé dans le stand-up parce que ça crée des moments uniques, mais c'est vrai que des fois dans des soirées il y a des moments où tu dis waouh, ça arrivera qu'une seule fois quoi.
Mais parce que ça crée des moments uniques, attention, pas que faire attention entre la différence entre interaction et improvisation, parce que c'est pas pareil. Redouane fait des interactions, il ne fait pas d'improvisation, du coup
oui, c'est des vannes à tiroir en plus,
voilà, c'est que l'interaction, parce que ça peut créer, je fais pas forcément de l'improvisation avec, par contre ça met un truc très particulier, c'est que ça peut changer mon mood par rapport au spectacle. C'est là aussi où ça devient unique. Je le vois souvent, j'en parle avec les régisseurs à la fin, et c'est eux qui ont les meilleurs ressentis. Souvent, c'est ils le disent, ils font là, t'étais en feu, ou t'étais en freestyle, ou là, t'étais dans l'émotion, parce que de par une interaction avec quelqu'un, d'un coup, ça me change totalement ma façon de voir le spectacle et de voir en gros mes blagues et les sujets que j'évoque, quoi. Donc, c'est voilà, la dernière date, il y avait mes deux parents qui étaient là, mon père qui était complètement pété dans la salle. Bon, mais c'est pas le même spectacle, tu vois. Mais parce qu'en plus des sujets que j'aborde et tout sur scène, c'est assez fou que en plus du coup, voilà, bon, je parle aussi des problèmes d'addiction, je vais parler de plus en plus de l'alcoolisme et tout sur scène. Et je me suis dit, bon, ben voilà, il m'a tout donné, quoi. Et en même temps, ben, c'est le Bédou, c'est lui de base, c'est son surnom de base. Pareil, les gens, ils ont pu voir un truc où c'était réel, quoi.
Et tes parents, justement, ils en pensent quoi de ta carrière ?
Bon, ben, eux, ils sont hyper fiers. Hein. Franchement, j'ai la chance d'avoir des parents qui sont hyper contents de ce que je fais. J'ai eu la chance aussi, grâce à la tête sur les genoux aussi, de voir l'émotion dans leurs yeux dans ma salle quand j'ai joué. Eux, ben, je suis... Oui. J'ai la chance d'avoir des parents qui m'ont pas pu m'aider matériellement, mais qui en tout cas ouais m'ont toujours soutenu. Puis c'est des parents, enfin ils comprennent mon métier étant donné que ce sont deux rigolos, quoi. Voilà, c'est des blagueurs les deux.
Ça, la pomme est pas tombée trop loin du pommier, du coup.
Non, je sais pas s'il y avait un pommier, mais en tout cas.
Bon, ben on va bientôt terminer cet entretien. Est-ce que tu peux nous dire où c'est qu'on peut te retrouver et quand on peut voir donc ce spectacle, et ensuite j'aurais une dernière petite question pour toi.
Pas de souci. Ben, le plus simple pour me retrouver, c'est sur les réseaux. Donc, soit Bédou, soit Phasme2000 sur Instagram. Et maintenant, si vous tapez Bédou, B-E-D-O-U, on me retrouve. Donc, j'ai une résidence une fois par mois à l'Art du Théâtre. Mm-hmm. Donc là, je reprends le 28 septembre. Je joue souvent en fin de mois, troisième semaine, fin de mois. Donc, j'ai une date par mois jusqu'à mai-juin. Et je vais bouger aussi dans la région. Je sais que je vais aller jouer à Montpellier en octobre, le spectacle, à Nantes en décembre, à Nice en février. Il y a des dates qui vont s'ajouter au fur et à mesure.
Voilà. On te retrouvera sur ces dates-là. On peut te retrouver sur les réseaux, donc sur Instagram, Facebook et tutti quanti. Et pour terminer, bon, c'est une question que j'aime bien poser, c'est tu te vois où dans 5 ans et ton spectacle, tu le vois évoluer comment ? Parce que j'aimerais qu'on puisse réécouter ce podcast dans 5 ans et comparer avec ce que tu as dit aujourd'hui.
Dans 5 ans, j'aimerais bien m'imaginer dans une plus grande salle. Mmh. J'aimerais même bien m'imaginer dans une ville de Marseille encore plus grande au niveau du stand-up. Pourquoi pas que cette grande salle soit dans Marseille et pas forcément à Paris aussi. J'aimerais bien me voir faire des tournées. Je suis pas sûr de vouloir faire des grosses tournées à la mode le Caplin, tout ça et tout, parce que c'est quand même intense. Mais ouais, sillonner la France, quoi, sillonner même l'Europe, le monde, voilà, ça démocratise tellement. J'espère que le stand-up existera toujours et sera toujours aussi beau. Et voilà, attends, du coup, j'aurais quel âge ? J'aurais presque 40 piges. J'espère me voir encore avec un peu de cheveux.
Bon, ben, on finira sur ces beaux espoirs de cheveux restants. Merci à toi, Bédou, d'être venu dans les studios de Fréquence Mistral. Et on te retrouve prochainement dans la salle de l'Ardu et sur tous les autres plateaux de France et de Navarre. Bonne journée.
Ciao, ciao.
Sors ton lit, prends ton stylo et craque. Non, j'ai plus envie. Lâche-moi. Je fais plus rien.
Quoi ?
J'en ai marre, je fais plus rien.
Mais arrête un peu, vas-y, lève-toi. Sinon, je vis comment ? Je la nourris comment, maman, si tu te laisses crever, là ? Et t'écris pas, hein ? Tu me dis ?
J'en sais rien. Compte plus sur moi, franchement, j'ai trop mal au cœur. J'ai trop de choses sur le cœur.
Bah justement, ça devrait t'inspirer, mais... Vas-y, écris.
J'arriverai pas à ça. Non.
Mais arrête un peu. Relève ta tête là, arrête de chouiner là, vas-y, écris. Et moi je pars au fond, ok ? C'est moi qui te défends. Ok ?
Ok, mais d'abord il faut qu'on parle. Car c'est de ta faute aussi tout ça.
Ok, vas-y, je t'écoute, vas-y.
Je me sens perdue, je vis à l'étroit dans ta cellule. Si je perds pied, c'est que j'en ai marre qu'on nous conjugue. Tu prends trop de place, t'occupes toute la surface. Et moi je m'écrase, plutôt c'est toi qui m'efface, James. Ton ambition cadenasse tous mes rêves de gosse. Où est mon mari, où est son bon goût, où est son carrosse? Baggy basket, y'a que mon mascara qui t'illumine. Et puis je me taperais bien grec, vu que t'es au régime, bah ouais. Depuis quand c'est toi la bouée, quand c'est moi qui submerge? Et qui écrit quand c'est toi qui a la gamberge, hein? Je suis ton inspi, et c'est dur à admettre, James, car je suis l'auteur, et toi t'es que l'interprète. C'est quoi ce discours? Car t'as bien kiffé mes disques d'or. Tu fais demi-tour, car t'as peur que mon succès te dévore. Je suis ton sang, celui qui n'a jamais fait plus qu'un tour. Ton exomile comme un fan, dernier recours m'appelle. Je suis la rage, t'es fragile comme une princesse. Moi le trackster, je suis le backster de ta TS, t'es mon frein. Et puis t'es beaucoup trop timide, Mel. Moi j'aime les freins, j'aime quand ça rappe, j'aime les gimmicks. What? À t'écouter, on n'aurait pas atteint le zénith, ni le million, ni l'Afrique. Moi je suis photovoltaïque, je suis la compète. J'ai du succès et ils sont fous de moi. Toi, toi tu pètes un câble et t'es vexé car on s'en fout de toi. Viens on leur dit, viens on leur dit. Ils ont dit que j'étais morte, ils ont dit que j'avais péri. Je vous réponds que je suis forte, que je suis guérie. Ils ont dit que j'avais pété les plombs, pas là pour leur cirer les ponts. Désormais seul mon public compte. La lumière, les aveugles, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais je suis seul devant ma feuille. Et si diable, ça a perdu des amis, des tracteurs. Sachez que Mélanie n'a pas perdu son cœur.